blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Denis Masmejean, on se retrouve pour parler de cette situation, de la liberté de la presse dans le monde et en Suisse. On a fini la première partie en parlant de la situation suisse. Restons-y et bouclons cela. Il y a ces fameuses procédures Bayon. Hein. C'est ce que Reporters sans frontières pointe dans ce rapport annuel. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Expliquez-nous en quelques mots clairs ce que c'est que ces procédures Bayon.
Les procédures Bayon, c'est des procédures abusives qui font pour but... pas tellement de trancher un litige ou pour la partie qui lance la procédure de faire valoir ses droits, mais surtout de faire taire, de réduire au silence des médias ou des ONG qui rendent publiques des informations un petit peu gênantes. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de réduire au silence, de faire taire.
Et, bon, et c'est je, ça qui est... Je sais que tu vas produire un article sur moi, je vais voir un juge et j'empêche l'article de paraître.
Voilà, il y a ça. Et puis, il faut voir les coûts que représentent les coûts à la fois financiers, en termes de temps, d'énergie que ça prend. Et donc, pour des médias ou des ONG qui n'ont pas des trésors de guerre considérables, ça peut, à un moment donné, véritablement être très problématique et poser la question de savoir si on ne va pas baster pour avoir la paix.
On pourrait se dire, mais pourquoi ils savent qu'on va sortir un article? C'est parce que la déontologie professionnelle, évidemment, ne permet pas de sortir un article, je dis n'importe quoi, sur une grande entreprise, par exemple, sans l'avertir, hein, sans le contradictoire, sans lui demander de donner son avis. Donc, à partir de là, c'est facile pour une grande multinationale, par exemple, de dire, voilà, j'envoie mes avocats, l'article ne paraîtra pas, sans forcément avoir besoin de prouver qu'il est fallacieux.
Oui, alors, effectivement, ça c'est... Alors, vous avez tout à fait raison, il y a cette règle professionnelle, déontologique, fondamentale, sur laquelle il faut être absolument... Il faut rester intraitable. C'est absolument... normal et c'est nécessaire quand on met en cause quelqu'un ou une entité, on lui donne la possibilité de répondre aux reproches qu'on lui adresse. Ça, c'est fondamental, mais c'est clair que ça veut dire qu'il faut contacter la personne en question et qu'il faut lui dire en gros ce qu'on a en réserve, ce qu'on s'apprête à publier. Ce qui lui permet d'actionner ce qu'on appelle devant la justice civile des mesures provisoires, provisionnelles, qui sont un instrument absolument redoutable, qui permettent de faire bloquer une publication sans même entendre le média concerné. Donc vous écrivez au juge, vous lui dites « il y a un média qui va raconter des choses pas très sympas sur mon compte, merci de bien vouloir adresser une ordonnance de mesures provisoires de blocage à tel média ». Et ça part.
Comment ça marche dans les autres pays? Parce que, alors, vous et moi, on est journalistes, on a parlé de déontologie, on y croit, c'est normal. Mais enfin, on pourrait se dire, dans le grand public, les journalistes ne sont pas meilleurs que les autres. Il peut y avoir des erreurs. On sait très bien qu'un article peut détruire la vie de quelqu'un. Hein. On est dans une ambiance MeToo, là, c'est assez clair. Donc, on peut se dire, c'est aussi une protection des citoyens, ces mesures provisionnelles.
Oui, c'est comme ça que ça a été pensé, c'est comme ça que ça a été approuvé voté par le législateur. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une prise en compte, il y a nécessairement une prise en compte à faire entre l'intérêt, la protection de la personne mise en cause et l'intérêt à informer le public. Cette pesée d'intérêt, elle est compliquée à faire. Elle est rendue d'autant plus, disons, difficile à faire que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en particulier est quand même assez protectrice de la liberté de la presse, ce qui fait que toute solution comme ça, un peu abrupte, consistant à dire « vous mettez quelqu'un en cause, on peut bloquer d'abord et réfléchir ensuite et juger ensuite », c'est extrêmement discutable et contestable. Je ne pense pas que le législateur suisse, qui a révisé dans un sens récemment et dans un sens moins favorable aux médias ces mesures provisoires. Je ne pense pas que cette pesée d'intérêt ait été correctement faite par le Parlement fédéral.
Bon, j'ai pris l'exemple d'une personne physique qui mettrait en place, c'est surtout des entreprises qui vont actionner, ceux qui ont les moyens de le faire, qui vont actionner ces procédures.
Ou des dirigeants d'entreprise. Oui, c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Ce n'est pas le citoyen lambda qui tout à coup fait l'objet d'un compte-rendu médiatique, parce qu'il y a des règles professionnelles qui font d'abord que l'anonymat, si vous n'êtes pas une personnalité publique, les médias ne vont pas donner votre nom.
Là encore, on est dans une affaire de
déontologie. Si vous n'êtes pas une personnalité publique, en général, les médias ne s'intéressent pas à vous. Il y a des raisons pour lesquelles les médias s'intéressent à quelqu'un.
Bon, c'est le caillou dans la chaussure de la liberté de la presse en Suisse depuis plusieurs années.
C'est un des cailloux, c'est pas le seul. Il y en a d'autres.
Très rapidement, c'est quelque chose de...
La loi sur les banques qui a été révisée autour de 2015 et qui permet maintenant de poursuivre au pénal des journalistes qui utilisent des données bancaires volés, soustraits illégalement dans un établissement bancaire en Suisse, ils peuvent être poursuivis pour violation du secret bancaire.
Volés, on peut parler de lanceurs d'alerte, par exemple, des données qui sortent sur des comptes, etc.
Attention, il faut bien s'entendre. Volés, pas par le journaliste lui-même. Ça serait indéfendable du point de vue professionnel.
C'est qu'un lanceur d'alerte, par exemple.
Il y a eu un vol dont le journaliste n'est pas responsable. Mais ces informations, ces données bancaires volées sont ensuite portées à la connaissance d'un média. Et le principe, qui résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que même si une information est de source illégale, elle doit pouvoir être publiée sans que le journaliste ait à craindre de poursuite, à condition qu'elle soit d'intérêt général, qu'elle soit importante, qu'elle mérite d'être portée à la connaissance du public et qu'elle soit évidemment exacte et pertinente.
Bon, c'est la protection d'un nouveau secret bancaire, pour dire les choses un peu simplement, même
mais
si on croit qu'il a disparu.
Ce qui est étonnant et préoccupant, c'est au fond la facilité avec laquelle le Parlement fédéral a voté ces dispositions en 2015. Et aussi la difficulté avec laquelle le Parlement maintenant refuse de remettre l'ouvrage sur le métier, de revoir cette disposition. Il y a de nombreuses motions, interventions parlementaires qui ont demandé qu'on revoie ces dispositions pour tenir davantage compte de la liberté de la presse. Et ces interventions parlementaires, jusqu'à maintenant, elles n'aboutissent pas.
Bon, quittons la Suisse, Denis Masmejean. Encore une fois, le rapport de RSF, c'est le monde entier. Et j'introduisais cette conversation en disant le monde va mal. Forcément, la liberté de la presse, la faisabilité simplement de l'information ne va pas bien non plus. Il y a une dégradation générale.
Oui, il y a cette année une dégradation. Alors, ce qui nous frappe particulièrement et ce qu'on a mis en évidence lors de la publication de ce classement mondial 2024 de la liberté de la presse, le 3 mai, c'est une dégradation de l'indicateur politique, qui est l'indicateur qui mesure la capacité des États et des gouvernements à assurer, à défendre, à protéger l'indépendance et l'autonomie des médias et du journalisme et de la liberté de la presse.
La politique, donc, qui devrait être, en tout cas,
exactement,
dans nos démocraties, le principal défenseur de la liberté de la presse, conçu comme une liberté publique, pas seulement la liberté des journalistes, c'est aussi un pilier démocratique, etc. Non, ça ne marche pas comme ça.
Voilà. La liberté de la presse, elle suppose une certaine culture politique. Elle suppose, dans le monde politique, l'idée que la liberté de la presse est importante pour le fonctionnement de la démocratie et doit être protégée contre toutes les atteintes possibles. Et c'est ça, c'est cette capacité-là qui s'est dégradée cette année. Enfin, sur nos constatations remontent à, disons, la fin de l'année passée.
Oui, et puis d'année en année, vous voyez une évolution qui est constante. C'est pas tout à coup un bloc, les conflits, évidemment, n'aident pas. L'Ukraine, Gaza aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais une question un peu, pas technique, mais qui me chatouillait un peu sur Gaza. J'ai vu que d'un point de vue sécuritaire, évidemment, la Palestine, qui est considérée comme un pays, pour le coup, dans le ranking, dans le palmarès, recule beaucoup, parce qu'évidemment, évidemment, les journalistes, ils sont en danger. Mais c'est un petit peu la faute d'Israël.
Oui, alors effectivement, alors, vous faites bien de poser cette question. Cet indicateur mesure la liberté de la presse sur un territoire donné. Hein. Voilà, donc c'est ça qui explique le recul assez considérable de la Palestine, parce que la situation sécuritaire est...
Une centaine de journalistes tués depuis le début des opérations israéliennes.
Plus de 100 journalistes tués depuis le 7 octobre.
En tout cas, 22, je crois, ciblés. Hein. Les autres sont peut-être des victimes.
Dans l'exercice de leur métier, c'est-à-dire en reportage sur le terrain, les autres, ça veut dire qu'ils sont victimes comme...
Des bombardements, comme le reste de la population.
Comme n'importe quel civil. Et étant précisé que des journalistes, du point de vue du droit international humanitaire, sont considérés comme des civils, même s'ils sont en train de couvrir des opérations militaires, c'est des civils, ils ne peuvent donc pas être ciblés en tant que tels.
J'ai pas lu tout le rapport dans le détail, mais je n'ai pas vu un mot sur le fait que, sur le théâtre d'opération à Gaza, les journalistes internationaux ne sont pas admis. Ils peuvent pas entrer,
c'est
un point.
Il n'y a qu'une seule journaliste américaine qui est entrée quelques heures. Oh. Je ne sais pas d'ailleurs exactement comment elle s'y est prise, mais les journalistes étrangers ne peuvent pas entrer dans la bande de Gaza. Nous réclamons depuis le début qu'ils puissent entrer, notamment à travers la porte d'entrée de Rafah, hein, mais ils ne l'ont jamais pu. Donc, seuls des journalistes présents à Gaza à compter du 7 octobre et du blocus total qui a été imposé peuvent opérer sur place. Et donc, nous sommes en contact avec beaucoup de ces journalistes présents sur place. Nous demandons qu'ils soient autorisés à quitter la banque de Gaza s'ils le souhaitent, pour toutes sortes de raisons, de santé, familiale, personnelle ou autre. Israël n'a jamais autorisé leur sortie.
Bon, j'entends cette question. On va terminer cet entretien. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la façon dont on peut encore faire ce métier dans le monde. Hein. On parle de vérité alternative. Trump va peut-être revenir au pouvoir dans quelques mois. C'est lui qui avait introduit ce concept. Hein. C'est pas la vérité, mais c'est une autre. C'est ma vérité. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a un cas d'ailleurs que vous mettez en avant en Slovaquie. Hein. Le premier deepfake, donc une journaliste qui a été victime de la captation de sa voix pour un fake, une fausse information électorale.
Oui, alors effectivement, la période est à la fois extrêmement inquiétante, mais aussi complètement passionnante, quoi. Parce que, moi je pense que le journalisme n'a jamais été aussi nécessaire que maintenant. La période est compliquée, elle est difficile, il n'y a pas beaucoup de signaux qui incitent à l'optimisme. Pour autant, je pense que tout est loin d'être perdu.
C'est pas foutu.
Non. Non, je
regardez la foi.
Je suis convaincu que justement, précisément parce que le rapport à la vérité est lourdement affecté par les nouvelles technologies, on a besoin de journalistes en tant que marchand de vrai. Hein, c'est pas moi c'est le photographe Neil Sackerman, je crois, qui a utilisé cette expression que je trouve extrêmement juste. Les journalistes sont des marchands de vrai. Je pense que c'est à ce rôle-là qu'ils doivent absolument s'accrocher, qu'ils doivent défendre envers et contre tout. C'est plus important maintenant que jamais. C'est pas impossible, c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est ça la mission du journalisme aujourd'hui.
Bon, il faut rester optimiste. Merci pour cette note finale. Denis Masmejean est venu nous parler de ce rapport, hein, Reporters sans frontières, chaque année, important pour se faire une idée de la situation mondiale de la liberté de la presse. Merci à vous.
Merci à vous, merci de votre intérêt.